Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, Urbania et Pivot. Au programme, guide d'autodéfense contre l'angoisse financière. Le travail des enfants et des ados aux dépens des études et hommage aux bibliothèques Temple de la gratuité. Bonne écoute.
Guide d'autodéfense contre l'angoisse financière. Un texte de Ariane Dupuis, paru le 28 février 2023 dans le magazine Urbania. 4,95 et la SADC s'unissent pour vous montrer qu'arrêter de stresser au sujet de son argent, c'est possible. J'aime penser que notre relation avec l'argent s'apparente au type d'attachement. Anxieux, évitant ou sécure. Pour certains, certaines, les placements n'ont plus de secret. Leurs déclarations de revenus sont expédiées aussitôt les T4 reçus. Leur conseiller financier est régulièrement invité à bruncher. Leurs amis n'ont pas le temps de s'inquiéter des 25 $ généreusement investis dans les drinks de la veille que déjà un virement est prêt à être encaissé. Bref, leur pouce est vert oseille. Pour les autres, c'est plus craintif évitant. Soit ils pensent à leur placement, dans certains cas inexistant, jusqu'à en faire de l'urticaire, soit ils se bouchent les oreilles quand leur mère les interroge sur leurs épargnes, de manière aussi bienveillante que non sollicitée. Le REER est loin de les faire rire et le REEE les rebute. Si vous vous reconnaissez et que votre relation avec l'argent correspond à la case « c'est compliqué », continuez votre lecture. On va traverser ça ensemble. Prendre en main ses situationships et ses finances, ça commence maintenant. Mettre l'argent et l'angoisse de côté. Que vous ayez déjà effectué ou pas vos premiers placements, les transferts d'argent peuvent être angoissants. Vous ne savez peut-être pas par où commencer ou être inquiète de ce qui peut arriver à votre argent durement gagné lorsque vous le mettez de côté. Heureusement, vous avez tout à gagner à investir dans des comptes épargne. Tant que vous faites affaire avec une institution financière, membre de la Société d'assurance dépôt du Canada, SADC, votre argent est protégé. Dans les rares mais possibles cas de faillite bancaire, vous êtes automatiquement assuré sans frais. Ce service vous est offert même si vous n'avez rien demandé, un peu comme une récompense pour avoir géré votre argent. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne perdrez jamais rien à épargner, sauf peut-être ce persistant stress financier qui vous donne trop souvent envie de tout abandonner et de vous convertir au troc. Depuis 1967, près de 2 millions de Canadiens, Canadiennes, de 43 institutions bancaires ayant fait faillite ont été protégés par la SADC. Vous ignoriez peut-être que, tout ce temps, vos épargnes étaient protégées. Ça ne peut qu'être rassurant. La sentez-vous descendre un peu l'anxiété financière? Comment ça fonctionne, les dépôts? Maintenant, il vous reste à vérifier si vos dépôts sont protégés. Si on ne connaît pas le lexique financier, ça peut être compliqué, mais on est ici pour apprendre. Premièrement, au Canada, votre épargne pour les études, REEE, et votre épargne pour une personne handicapée, REEI, entre autres, sont protégées jusqu'à 100 000 $ chacune dans les institutions membres de la SADC. En tout, ces 8 catégories de dépôts qui sont protégées par la SADC, chacune jusqu'à concurrence de 100 000 $ par bénéficiaire. Ce que ça veut dire, c'est que si vous mettez de l'argent dans un REEE, pour deux enfants différents par exemple, c'est jusqu'à 200 000 $ qui sont protégés. Même chose pour le REEI. Bon, on n'a pas tous et toutes 200 000 $ de lousse qui traînent, même après avoir dûment fouillé chacune de ses poches de manteau à la recherche de billets de l'hiver précédent, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer dès maintenant à mettre de l'argent de côté. Si, par exemple, votre objectif immédiat, c'est de payer moins d'impôts, l'argent que vous déposez dans votre CELI est aussi protégé par la SADC, que ce soit 100 000 $ ou les 10 $ retrouvés plus tôt dans votre vieux manteau. L'épargne au féminin. Vous n'êtes pas encore convaincu? Ou bien votre peur de l'argent est tenace, ou bien, au fond, vous aimez ça, les relations compliquées. Sauf que, si vous êtes une femme, épargner pourrait aussi profiter à l'équilibre homme-femme dans le secteur financier. Si ça, ça ne vous convainc pas. Les femmes ont historiquement été beaucoup moins sensibilisées que les hommes à tout ce qui touche la santé financière. Les placements et les planifications de la retraite sont dominés par les hommes, et le stéréotype veut que les femmes soient moins à l'aise avec les risques financiers ou moins informées en la matière. Le monde des finances personnelles n'a pas toujours été très accueillant pour les femmes. Heureusement, les choses changent. La SADC est consciente de l'écart qui existe entre les hommes et les femmes dans ce domaine et vous encourage plus que jamais à prendre vos finances en main et à le faire sécuritairement. Le plus dur, c'est souvent de se lancer. Mais c'est très rare qu'on regrette d'avoir mis de l'argent de côté. Votre avenir vous sera reconnaissant. Votre tension vient de baisser d'un cran et vous êtes finalement prêt et prête à devenir une pro de l'épargne. Pour commencer, il suffit de vérifier si votre institution financière est membre de la SADC, puis de distinguer les dépôts qui sont protégés de ceux qui ne le sont pas. C'était « Guide d'autodéfense contre l'angoisse financière », un texte de Ariane Dupuis, paru le 28 février 2023 dans le magazine Urbania. Le travail des enfants et des ados aux dépens des études. Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 17 février 2023 dans le magazine Pivot. De plus en plus d'enfants intègrent le marché du travail de façon précoce, au détriment de leur santé et leur éducation, selon des organismes qui visent la persévérance scolaire. Les enfants sont de plus en plus nombreux à travailler, et ce, de plus en plus tôt, ce qui peut avoir un impact sur leur réussite scolaire et leur santé, déplore Réseau Réussite Montréal. Bien qu'un nouveau cadre légal soit prévu afin d'interdire le travail avant 14 ans, l'organisme soutient que cela ne suffira pas à répondre à cet enjeu. Avec la remontée de la demande de main-d'œuvre, les enfants et les adolescents-adolescentes sont de plus en plus nombreux et nombreuses sur le marché du travail. Les écoles signalent également de plus en plus d'absences motivées pour cause de remplacement au travail, et ce, dès le secondaire 1, rapporte Réseau Réussite Montréal. Tous les intervenants communautaires qui travaillent avec les jeunes nous disent qu'ils reçoivent des jeunes de 11-12 ans qui veulent faire leur CV. On n'avait pas ça avant, signale André Maillé-Périard, directrice de l'organisme Réseau Réussite Montréal, qui s'inquiète de l'impact de cette tendance sur la réussite scolaire. Si le réseau soutient que le travail, dans de bonnes conditions, pour un nombre d'heures limité, peut être bénéfique, il ne devrait en aucun cas concerner les jeunes qui ont moins de 14 ans. Comme société, on a certainement d'autres expériences que le travail à offrir aux jeunes de 11, 12, 13, 14 ans, pose Mme Maillé-Périard. Elle souligne qu'à cet âge, les enfants vivent une période de changement important, marquée par la transition vers l'adolescence et l'arrivée à l'école secondaire. C'est important de leur donner un moment qui est protégé, pour qu'ils puissent se développer, socialiser, découvrir des passions. Même sans emploi, un ou une élève est déjà occupé 35 heures par semaine à l'école, sans compter le temps nécessaire pour compléter les devoirs et s'adonner à un sport ou une activité parascolaire. La priorité d'un élève devrait être d'étudier, rappelle Mme Maillé-Périard. On devrait tout mettre en place autour de lui pour lui offrir les conditions pour réussir son parcours scolaire. Le travail est très valorisé dans notre société, c'est correct, mais il faut se rappeler que l'éducation est une priorité. Un travail peu payant, mais risqué. Les enfants et les jeunes occupent majoritairement des postes qui présentent un haut taux de roulement, une rémunération faible et peu ou pas de protection sociale. En plus d'avoir un impact sur la réussite scolaire, leur travail peut comporter des risques accrus pour la santé mentale ou d'accidents de travail. Il pourrait aussi avoir des conséquences négatives sur le sommeil et sur la consommation de substances. Les risques pour certains jeunes sont accrus lorsque le cap des 10 heures de travail par semaine est dépassé. Ils sont encore plus importants après 15 heures et carrément nuisibles pour tous et toutes au-delà de 20 heures. La priorité d'un élève devrait être d'étudier. On devrait tout mettre en place autour de lui pour lui offrir les conditions pour réussir son parcours scolaire. André Maillé-Périard, directrice de Réseau Réussite Montréal. Ceux qui retirent le moins de bénéfices du travail et qui cumulent le plus de facteurs de risque sont souvent des jeunes issus des quartiers plus défavorisés, ajoute Mme Maillé-Périard. Ils et elles sont susceptibles de travailler un plus grand nombre d'heures, selon le réseau, dans une grande partie des cas, afin de soutenir leur famille. Cadre légal sous pression. Pour répondre à l'arrivée de plus en plus précoce d'enfants sur le marché du travail, le ministre du Travail, Jean Boulet, prépare un projet de loi qui interdirait leur embauche avant l'âge de 14 ans. La loi doit être claire et simple, exige Mme Maillé-Périard, qui a fait partie du comité consultatif. Il faut que ce soit clair pour le jeune, clair pour l'employeur, clair pour le parent. Elle défend l'interdiction du travail pour les moins de 14 ans. Pour les plus vieux, des balises limitant le nombre d'heures doivent également être prévues, soutient le réseau. Plus tôt ce mois-ci, Québec solidaire avait signalé l'influence exercée par des lobbyistes qui désirent obtenir des exemptions à la loi, notamment afin que les limites d'âge ne s'appliquent pas au domaine de la restauration où la demande de main-d'œuvre est particulièrement forte. On ne peut pas sortir les jeunes des bancs d'école pour occuper un job dans un restaurant. On ne peut pas mettre à risque leur capacité à persévérer et obtenir leur diplôme pour un emploi. André Maillé-Périard, directrice de Réseau Réussite Montréal. L'Association des restaurateurs du Québec s'oppose ouvertement à l'imposition d'un âge minimum, mais affirme être en faveur d'un encadrement qui limiterait le nombre d'heures pour les employés qui n'ont pas encore 14 ans. On ne nie pas qu'il y a des gros enjeux de pénurie de main-d'œuvre, mais ce qu'on dit, c'est que les enfants de 11 à 14 ans ne sont pas la solution. On ne peut pas sortir les jeunes des bancs d'école pour occuper un job dans un restaurant. On ne peut pas mettre à risque leur capacité à persévérer et obtenir leur diplôme pour un emploi. Elle prévient aussi que la loi ne suffira pas à empêcher le travail des jeunes. Elle souligne par exemple que l'absentéisme à l'école pour des remplacements au travail est courant, bien qu'il va à l'encontre de la loi actuelle. Il faut accompagner les jeunes et les parents pour les aider à comprendre l'importance de ces encadrements et pourquoi ils sont en place, explique-t-elle. C'est un peu de nouvelles normes sociales qu'on cherche à établir et il va falloir de bonnes campagnes de sensibilisation. C'était « Le travail des enfants et des ados aux dépens des études », un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov paru le 17 février 2023 dans le magazine Pivot. Thank you. Hommage aux bibliothèques, temple de la gratuité. Un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 1er mars 2023 dans le magazine Urbania. Depuis que je suis jeune, j'entends des gens critiquer le capitalisme. Avant, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais on commence à le savoir pas mal. Pendant que les ultra-riches deviennent de plus en plus ultra-riches, le reste de la population a une difficulté grandissante à manger et se loger. Sans compter que la planète se meurt sous la tonne de cossins qu'on produit quotidiennement. Et on se fait facturer pour tout, tout, tout. Il reste à peu près juste l'eau et le soleil qui sont gratuits, mais ça aussi, ça achève. On tente de privatiser tout ce qui ne l'est pas déjà, des soins de santé à l'éducation. Mais, tel un village gaulois, il reste une institution qui résiste tant bien que mal aux sirènes du capitalisme, celle des bibliothèques. Un lieu de partage, de gratuité, d'entraide, qui est au service de la population et de rien d'autre. Les bibliothèques sont bien plus qu'un entrepôt de livres poussiéreux. Elles sont un lieu d'inclusion et, permettez-moi d'en mettre un peu, un rouage essentiel de la démocratie. Accompagnez-moi dans cet hommage aux bibliothèques. La gratuité, une rareté. Connaissez-vous beaucoup de choses qui sont gratuites, vous? Même l'inscription à l'école secondaire, qui est supposée être gratuite pour tous, coûte souvent des centaines de dollars, ce qui donnait bien des sueurs froides à mes parents pas spécialement riches. Mais à la bibliothèque, tout est gratuit. Pour vrai, tant que vous êtes résident de la municipalité où se situe votre bibliothèque. Question de rendre ça encore plus accessible. Beaucoup de bibliothèques ont mis fin aux fameux frais de retard. Fait que, si vous avez oublié un livre pendant 6 mois sur le divan, pas besoin de paniquer. Une gratuité comme ça, sans condition ou presque, faut quand même ramener vos emprunts. C'est rare de nos jours. Mais les bibliothèques bénéficient d'un luxe qu'on ne se permet plus aujourd'hui. Elles n'ont d'aucune façon besoin de produire un profit. Au lieu de devoir plaire à des actionnaires, elles ont une mission beaucoup plus importante qu'on a oubliée aujourd'hui, prendre soin de la population. Ça fait donc des bibliothèques un lieu unique où tous les milieux se côtoient. Vous trouverez des enfants qui viennent lire des bandes dessinées, des étudiants qui viennent réviser ou chercher du matériel pour leurs travaux de session, des personnes âgées qui viennent passer le temps, des universitaires qui cherchent des ouvrages rares et des gens plus démunis qui viennent profiter de l'air climatisé et de l'Internet gratuit. Et c'est parfait comme ça. Connaissez-vous un autre lieu où tous les milieux se côtoient en parfaite égalité? C'est ça qu'on pensait. Je suis un gros fan de jeux vidéo, mais quand j'étais étudiant, j'étais beaucoup trop pauvre pour me permettre de m'acheter de nouveaux jeux. Je me nourrissais de ramen et de pois chiches en conserve. Vous comprendrez que mon budget PlayStation était mince comme peau de chagrin. C'est là que je suis vraiment tombé en amour avec les bibliothèques. Parce que oui, beaucoup de bibliothèques prêtent des jeux vidéo. De la génération Xbox 360 PS3 au jeu tout neuf de PS5 et Xbox Series X. Il y a même des bibliothèques qui prêtent carrément des consoles. Des jeux vidéo gratis? Qu'est-ce que tu veux de plus? Des services variés. Naturellement, on associe les bibliothèques aux livres, mais c'est loin d'être juste ça. Comme je l'ai dit précédemment, les bibliothèques prêtent aussi des jeux vidéo, mais encore là, on effleure la surface. Vous voulez des jeux de société pour votre party, mais vous n'avez pas envie de payer le gros prix? Bibliothèque. Besoin d'une imprimante 3D? Bibliothèque. Vous voulez apprendre la guitare? La bibliothèque prête des instruments. Besoin d'un local pour une réunion? Bibliothèque. Certaines bibliothèques offrent même des semis pour que vous puissiez faire pousser des plantes et des légumes. Pas besoin de leur redonner. Ou du matériel de plein air, si vous voulez profiter de l'hiver, mais que vous n'avez pas les moyens de vous acheter des raquettes et des bâtons. Et ici aussi, je ne fais qu'effleurer la surface, car elles offrent aussi une foule de cours, des langues à la fabrication d'avions en papier, en passant par des cours de danse ou de prévention de la fraude pour les aînés. Bref, les bibliothèques font de tout, tant que ça peut aider les usagers. Oubliez l'image de la bibliothécaire qui vous regarde avec dédain et qui vous crie « Chut !» dès que vous respirez un peu fort. Il y a plus de chances que les vrais prennent de vos nouvelles puis vous demandent s'il n'y a pas quelque chose qu'elles pourraient faire pour vous aider. Poursuivons avec hommage aux bibliothèques, Temple de la gratuité, un texte de Pierre-Luc Ouellette paru le 1er mars 2023 dans le magazine Urbania. L'antidote aux augmentations de Netflix. Vous trouvez que ça commence à être cher pas mal, 21 $ par mois pour Netflix, surtout que vous pouvez plus partager le compte avec vos parents et votre tendre moitié. La bibliothèque a des milliers de films et de séries à vous prêter gratuitement. Et c'est pas mal mieux que les services de streaming, ni vos choix. J'ai un amour démesuré pour Louis XIX, le roi des ondes, une comédie québécoise des années 90 mettant en vedette Martin Drainville. Récemment, je voulais réécouter ce bijou du cinéma québécois, mais c'était impossible de le trouver où que ce soit. Il n'est sur aucune plateforme de vidéo à la demande, il n'est pas en vente sur iTunes, il n'est sur aucun autre service du genre et les DVD sont en rupture de stock depuis 20 ans. Bref, c'est un film qui, suite à la fermeture des clubs vidéo, a été oublié de tous, sauf des bibliothèques. Après des jours de recherche, j'ai décidé d'aller voir si la BANQ avait un exemplaire du film. Deux clics plus tard, une copie du film était réservée à mon nom et il m'a suffi d'arrêter à la bibliothèque en revenant du travail pour pouvoir écouter Louis XIX. Et oui, c'est toujours aussi bon. L'accessibilité pour tous. Tu sais, quand on vous disait plus tôt que les bibliothèques sont un des rares lieux accessibles à tous, on parlait pas juste d'argent. C'est aussi une ressource incroyable pour les personnes en situation de handicap. Non seulement elles sont accessibles pour les gens en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, mais les bibliothèques offrent aussi des livres en braille ou en gros caractères pour les malvoyants, ainsi que des livres audio pour les gens aux prises avec de l'analphabétisme. Oui, pas besoin de savoir lire pour aller à la bibliothèque, entre autres choses. Et si vous êtes trop à mobilité réduite pour pouvoir même vous rendre à la bibliothèque, certaines bibliothèques offrent même de vous envoyer vos emprunts par la poste. Vous pouvez aussi réserver des livres numériques et les lire directement sur votre liseuse ou votre tablette. Un troisième lieu pour tous. Mais au-delà des prêts d'affaires, le fun, et des économies que ça peut engendrer, les bibliothèques sont importantes parce qu'elles sont un troisième lieu, c'est-à-dire un lieu en dehors du travail et de la maison, ouvert à tous sans discrimination. C'est l'un des rares endroits où on peut se tenir sans être obligé de consommer quoi que ce soit. Essayez de penser à un seul autre endroit à l'abri des intempéries où on ne vous demande pas d'argent pour avoir le droit d'exister. Partout ailleurs, ce serait du flânage. À la bibliothèque, c'est simplement être un usager. Mais ces lieux sont importants, surtout quand on vit dans la pauvreté au sein d'un logement bondé, ou quand on est dans une situation difficile à la maison, notamment de violence. Justement, les bibliothèques se font une mission d'aider la population. Vous avez des documents gouvernementaux à remplir, mais vous ne savez ni lire et ni écrire, ou vous n'êtes simplement pas familier avec la bureaucratie. La bibliothèque va vous aider. Vous êtes un immigrant, un sans-abri. Vous vivez de la violence conjugale et vous ne savez pas vers qui vous tourner pour obtenir de l'aide? Les bibliothèques sont outillées pour vous aiguiller. Et ce n'est pas un lieu stigmatisant. Si vous vivez de la toxicité à la maison, mais que les refuges vous intimident, peut-être que les bibliothèques, où vous croiserez des gens de tout horizon, des travailleurs, des étudiants, des enfants, des artistes et autres, seront un peu plus rassurantes pour vous. Les bibliothèques sont un lieu unique où tout le monde est le bienvenu et surtout où tout le monde a droit à de l'aide gratuitement. Emprunter et résister. Je sais que tout ça avait l'air d'une infopub, et pourtant non. C'est juste que, quand on parle de bibliothèque, je deviens très, très enthousiaste. Je rêve d'un monde où le partage et l'égalité seraient des valeurs fondamentales et où on se préoccuperait davantage du bien-être de tous, peu importe leurs conditions médicales ou financières, que du profit des actionnaires. Et on a déjà un lieu qui fonctionne sous ce mode, les bibliothèques. Pourtant, elles doivent faire des pieds et des mains pour se démarquer et attirer la population en son sein. Elles ne demandent pas votre argent, seulement que vous franchissiez leurs portes et profitiez de leurs services gratuits. Empruntez un livre, une BD, un coffret DVD d'une série qui n'est pas disponible en ligne, un jeu vidéo, inscrivez-vous à des cours d'autodéfense féministe. Oui, c'est un vrai cours. Plantez des choux à la mode de chez nous, bref, participez à la vie de la bibliothèque. Un autre monde est possible. Et tout ce qu'il faut pour y accéder, c'est une petite carte en plastique. C'était Hommage aux bibliothèques, temple de la gratuité, un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 1er mars 2023 dans le magazine Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Nicolas Zartman à la recherche, à la présentation et au montage.